Lockout, oui, pardon, des débardeurs du côté de Montréal qui s'ajoutent au lockout qu'il y a dans l'ouest du pays à Vancouver, là, au port de Vancouver avec les contre-maîtres. On voit un petit peu partout dans les médias depuis hier des mots comme catastrophique, comme méga impact sur l'économie. Évidemment, tu disais 80 millions de dollars qu'on pourrait perdre dans l'économie par jour.
C'est ce que je crois avoir vu dans les médias.
OK.
Fait que, donc c'est ça. Alors, c'est énorme pour l'économie du Québec.
Quel sera l'impact pour l'économie du Québec, mais même de l'est du pays, même le Canada?
Bien sûr.
Est-ce qu'éventuellement, ça va venir jouer dans notre portefeuille, dans nos poches? On va jaser de toute cette situation-là avec Marc Rangé, qui est ex-directeur québécois du syndicat canadien de la fonction publique. Il est maintenant conseiller stratégique pour Ryan Affaires publiques et... Comme j'aime l'appeler, il est notre spécialiste en négociation syndicale. Marc, bon matin.
Hey, salut, très content de vous retrouver.
Merci d'être là. Marc, on va jaser là, côté négociation et c'est où que c'est difficile, là, c'est où qu'on ne s'entend pas. Mais juste avant, là, je ne me trompe pas quand je dis si ça s'étire, là, ce lockout-là à Montréal qu'on ajoute au lockout qu'il y a à Vancouver, ça va avoir un impact majeur sur notre économie.
C'est sûr que ça a un bon impact, mais pour avoir vraiment de l'impact, parce que faut dire que l'employeur avait préparé le terrain depuis déjà plusieurs semaines. Des navires sont détournés vers le port d'Halifax. Donc, il y a quand même de la marchandise. Je te dirais que plusieurs fournisseurs aussi avaient vu les coûts venir, ce conflit-là. Donc, je dirais que tout le monde avait fait un peu ses réserves et avait planifié le conflit. Fait que je pense qu'à court terme, on verra pas tellement d'impact. Oui, okay. Il y a un impact économique, mais nous, le consommateur, ou au niveau de peut-être de pression sur le taux d'inflation, ça prendrait un conflit qui perdurerait là, plusieurs semaines, puis dépasser un mois, là, pourrait commencer à avoir de l'impact. Mais pour l'instant, je pense que évidemment, beaucoup d'acteurs économiques font des pressions puis souhaitent que le gouvernement intervienne. Donc, c'est pour ça que c'est toujours la valse des chiffres, là, les premiers jours d'un conflit. Mais pour l'instant, à court terme, là, moi, je ne paniquerais pas là, si j'étais le consommateur. C'est pas demain matin qu'on va avoir un impact.
Marc, si je ne me trompe pas, là, à 99 % les débardeurs ont refusé l'offre patronale, donc ça se tient assez solide. On s'entend pas sur quoi?
Ouais. Ben, oui, c'était un rejet qui était très fort parce que ce qui est particulier, c'est que moi, j'ai vérifié depuis le 27 septembre. Il n'y a pas eu de rencontre de négociation.
Okay.
Puis à un moment donné, la semaine dernière, je sais qu'il y a eu des relances pour que le Service fédéral de médiation convoque les parties et pour vraiment qu'il se passe quelque chose. Parce que depuis le 27 septembre, il y avait uniquement eu une rencontre avec le ministre du Travail au fédéral, Stephen McKinnon, le 15 octobre. Sinon, silence radio. Pas d'échange entre les parties. Ce qui est au cœur du conflit, c'est la gestion des horaires de travail. Il y a plusieurs points, mais c'est ce point-là qui est majeur, c'est la gestion des horaires de travail. Puis le syndicat l'avait dit, entre autres, un des employeurs au port de Montréal qui abuserait d'une disposition sur les horaires de travail qui a un peu mis le feu aux poudres. C'est pour ça, d'ailleurs, que le syndicat avait ciblé cet employeur-là pour une grève partielle illimitée qui touchait 40 % des activités du port. Là, c'est l'employeur, l'Association des employeurs maritimes, c'est eux autres qui ont décrété le lockout à partir de dimanche soir. Mais si je reviens un peu à le fait qu'il ne soit pas passé rien, c'est que jeudi soir dernier, l'employeur a fait parvenir par courriel. Écoutez, là, tenez-vous bien, moi, j'ai jamais vu ça. Là. J'ai bien depuis un an que j'ai jamais vu. Là. Mais par courriel, une offre finale et globale, au moment où le Service fédéral de médiation a convoqué les parties pour le lendemain matin, 10 minutes après, selon mes renseignements, l'employeur faisait parvenir une offre finale et globale au syndicat. Et c'est sûr que ça aussi, ça a mis le feu aux poudres un peu, parce que, tu sais, dans cette offre-là, si tu regardes, on parlait de Vancouver. Vancouver, c'est les contre-maîtres qui sont mis en lockout.
Oui, 700 contre-maîtres à l'heure actuelle.
Oui, oui. Puis les 4500 débardeurs du port de Vancouver ont réglé eux autres-là. Là. Puis ils ont réglé à 20 % sur 4 ans le salaire. Halifax, c'est réglé le port d'Halifax. Là. Et ça, c'est les plus gros ports au Canada, avec Montréal qui est le deuxième plus gros. Halifax, 20 % sur 4 ans. L'employeur a offert 19,5 % sur 6 ans dans son offre finale et globale. Ça, c'est une indication. Tu sais, je vais revenir aux horaires de travail, mais qu'un employeur ne veut pas régler, là, tu sais comment ça s'est réglé ailleurs, là,
ouais.
Sur 4 ans. à 20 %. C'est ça, le pattern. Puis tu sais, aux États-Unis, vous vous rappelez, à côté de l'Américaine, on en a parlé un peu, les transports américains, ça s'est réglé pour 61,5 sur 6 ans. Mm-hmm. Fait qu'on n'est pas dans la même bargain.
Pas pantoute, hein?
Non, c'est oui, ils sont bien payés, là, les débardeurs, c'est pas la question, là. C'est pour ça que c'est pas un des enjeux. Mais quand tu fais une offre finale et globale, là, assure-toi, si tu veux être sérieux, que tu mets ce qui a été réglé ailleurs à quelques décimales près. Ouais. Fait que moi, ça a été une indication que c'est, les parties sont très, très loin quand tu as une offre finale et globale de cette nature-là, puis surtout qui est envoyée par courriel. Fait que la vraie, je te dirais que le vrai litige, là, au port de Montréal, c'est que les parties, là, se détestent comme j'ai rarement vu.
Ah oui.
C'est vraiment, là, difficulté à se parler, difficulté. Moi, ce qu'on me dit, c'est que le syndicat, depuis 3 semaines, tentait d'avoir des rencontres de négociation. Il n'y a pas de communication. C'est vraiment une guerre de tranchées. Puis là, ça résulte vers où on se trouve maintenant. Un lock-out. Pas surprenant qu'il ait rejeté dans ce contexte-là. Le syndicat a presque à l'unanimité cette offre finale et finale globale-là. Mais bref, c'est un conflit qui est pas fini.
Hey Max, juste une mini-parenthèse. C'est jamais bon là, quand ça devient dans les négociations le personnel, puis on s'en veut là, chacun de son bord à ce point-là.
Non, c'est jamais bon. C'est pour ça que ça prend un tiers, là. Puis quand j'ai un tiers, on l'a vu dans le dossier des infirmiers et infirmières, là, d'AFIC, le conciliateur d'expérience, mais ça prend un tiers pour être capable d'amener les parties à se parler, pour être capable d'adresser les problèmes, parce que les horaires de travail, c'est au cœur du litige, mais t'es pas capable d'en parler de part et d'autre. Fait que ça fait en sorte que tu peux pas le régler. Et là, je pense que s'il y a une chose que le ministre fédéral du Travail doit faire, parce que là, vous le voyez, là, qu'il marche sur une ligne mince, Stephen McKinnon, là. Mm-hmm. La Chambre des communes, c'est le bordel.
En effet.
On voit qu'il y a un blocage de la part des conservateurs qui fait en sorte qu'il n'y a pas de débat parlementaire. Donc, si le ministre McKinnon voulait amener sur le plancher une loi spéciale, pas sûr qu'il serait capable d'en débattre,
ouais.
Premièrement. Deuxièmement, dans le secteur ferroviaire, vous vous souvenez, il était intervenu avec un article qui avait dépoussiéré.
Oui, un arbitrage exécutoire, si je me souviens bien.
Oui, puis en suspendant les droits avec l'article 107 du Code. Là, cette décision-là est en cours fédéral actuellement. Il a été challengé, le ministre, quand il a fait ça à la fin de l'été, en septembre.
Donc, il n'y a pas grand-chance qu'il le refasse.
C'est ça, là. Là, il sait qu'en plus, c'est pas tout le pays, secteur ferroviaire au complet. Il sait que c'est le port de Montréal. Oui, il y a une contre-maître à Vancouver, là, mais ça, c'est un débat qui est un peu différent. Mais port de Montréal, est-ce que tu sors l'arme nucléaire qui a jamais servi à ça, sauf il y a 2 mois, pour pouvoir régler ce conflit-là? Fait que moi, je pense qu'il sait, mais ce qu'il devrait faire, mais aller à la conclusion, là.
Ah,
moi, j'étais le ministre fédéral du Travail, là. Les partis ont tenté de s'entendre sur un médiateur spécial, ça n'a pas marché. Moi, j'imposerais un médiateur spécial d'expérience. Pas qu'il vienne du service fédéral de médiation, parce que je le dis, à date, ça n'a pas marché. Ils ont de la misère à convoquer les partis. Fait que je veux pas les blâmer, là, mais à un moment donné, c'est de nommer quelqu'un qui a une notoriété, puis qu'il y a un article du Code canadien qui leur permet de faire ça, c'est l'article 105. Que le ministre peut nommer un médiateur, puis lui, là, il peut même faire une recommandation. Alors moi, ce que je ferais, je le nommerais au plus sacrant. Aujourd'hui même, je nommerais un médiateur spécial avec les pouvoirs de convoquer, les pouvoirs aussi de dire, je vous demande de faire une trêve, donc vous cessez immédiatement tout moyen de pression. J'enlève pas de droit, là, mais
oui.
Le temps que je m'approprie le dossier, pour les 14-21 prochains jours, on reprend le travail, tout le monde.
On arrête la grève puis le lock-out, autrement dit.
Absolument. On met tout ça sur pause. Je m'approprie le dossier. Puis ensuite, si vous voulez reprendre des moyens de pression, mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous entendre. Et à un moment donné, si vous n'êtes pas capable, vous n'aurez pas le choix de vous parler parce que je vous convoque et vous devez être dans la même salle. Ensuite, je vais provoquer des discussions. Puis si ça ne marche pas, je vous préviens que je vais faire une recommandation sur les horaires de travail, je vais faire une recommandation sur le salaire.
Comme on l'a fait avec la FIC.
Exactement. Puis les gens me disaient avec la FIC, ouais, mais il ne peut pas imposer sa solution de conciliateur. Mais vous avez vu que ça marchait. Pourquoi ça marchait? Parce que là, c'est fini les petites games. Là, face à l'opinion publique, puis à monsieur, madame, tout le monde, tu as un tiers d'expérience qui vient dire, voici ce qu'il y en est. Là, il y aurait une pression immense sur les deux parties pour négocier. Et dans ce cas-ci, c'est pas compliqué. L'employeur, c'est l'AEM, l'Association des employeurs maritimes. Ça, là, ça regroupe une trentaine d'employeurs au port de Montréal. Il y a des employeurs de catégorie 1, catégorie 2, des exploitants, puis des employeurs de débardeurs. C'est beaucoup de monde, cet employeur-là. Oui. Mais il mise sur le fait, comme dans le secteur ferroviaire, c'est pour ça qu'il n'y a pas de négociation. Il se dit, je vais appeler la Fédération de l'entreprise indépendante, je vais appeler tous les acteurs économiques qui mettent pression sur le gouvernement, puis le ministre du Travail va intervenir. Mais moi, ce que je dis, c'est que ce qu'il faut qu'il se fasse, c'est comme aux États-Unis, c'était Biden à un moment donné qui avait dit « Moi, j'interviendrai pas. » Ça a été clair, vous devez vous entendre. Et c'est ce qui est arrivé. Mm-hmm. Dans le fond, ils se sont entendus. Donc, je pense que le message doit être très fort, doit être envoyé de cette façon-là pour faire en sorte que, dans le fond, qu'il y ait des vraies négociations qui débutent et qu'on ne se fie pas sur les acteurs économiques pour pouvoir régler.
Marc,
je m'excuse. La ligne se coupait, là. Désolé.
Hey, sans problème. Marc, ici à Québec, on vit justement des travailleurs de remplacement, des SCAP, depuis 2 ans. Est-ce que c'est le cas à Montréal? Est-ce que les employeurs peuvent utiliser des travailleurs briseurs de grève? Je sais que la loi va entrer en vigueur en juin 2005, la loi anti-briseurs de grève, mais est-ce qu'on peut en utiliser à l'heure actuelle?
Oui, il pourrait tout à fait en utiliser, mais ce qu'il y a de la différence avec le port de Québec, c'est que vous voyez actuellement, là, il y a un lock-out, mais tout est à l'arrêt.
OK.
Et donc, l'employeur, ce qu'il fait à Montréal, c'est qu'il se dit, moi, je veux tellement que le ministre du Travail intervienne, mais moi, j'arrête toutes les activités. Il pourra pas stander, comme on dit en bon français, la pression. Ouais. Il va devoir intervenir. Alors, c'est
la différence. Il y a une stratégie, là, derrière ça, là.
Oui, il y a une stratégie. Puis c'est pas par hasard non plus que du côté de Vancouver, on s'entend pas avec le plus petit groupe. Puis qu'on a décrété un accord qui arrête toutes les activités à Vancouver, c'est que les employeurs se parlent, hein, et se disent d'un bout à l'autre du pays, là, dans ce secteur-là, comment on peut forcer la main du ministre du Travail? Ben tiens, on bloque les deux plus gros ports au Canada, puis il n'y aura pas de choix, il devra intervenir.
Marc Granger est conseiller stratégique pour Ryan Affaires publiques, notre spécialiste en négociation et situation syndicale. Marc, merci infiniment. Toujours un immense plaisir et très apprécié.
Merci à vous autres.
À bientôt, Marc.
Salut, Marc.
Bye.
Salut. Toujours ouais. Très intéressant de jaser avec Marc Granger quand on a des situations comme celle-là.
Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on réussit justement à tisser les comparatifs entre les différents conflits, parce que là, il y a plein de conflits dans les ports un peu partout au Canada. Puis on comprend qu'ici à Québec, on a décidé d'utiliser des travailleurs briseurs de grève parce qu'on veut continuer les opérations, tandis qu'à Montréal, on décide de mettre de la pression sur le ministre du Travail. Puis ça résulte du fameux arbitrage exécutoire dans le dossier des chemins de fer. Je pense qu'on est dépoussiéré, là, puis je vais reprendre les paroles de Marc Granger, qu'on est dépoussiéré cette arme nucléaire-là. Ouais. Il y en a beaucoup d'employeurs qui veulent l'utiliser maintenant.
Aïe, 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 aïe. Merci à Marc Granger. Courte pause à Rage Against le matin, 7h41 après la pause. Ça brasse, Jeff, au RTC. T'as jasé avec Éric Poirier, qui est président du syndicat qui représente les inspecteurs et répartiteurs.
Oui, exactement. Groupe qui travaille très fort à la fiabilité du service. Puis, vous allez voir, il y a beaucoup trop de cadres au RTC.
Hâte d'entendre ça.
On s'arrête 2-3 minutes.